Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Estación Catalunya. The lights might us me.
Bonjour à tous, l'information du jour en Europe, c'est bien sûr cette nouvelle escalade de la tension entre le pouvoir espagnol et les séparatistes catalans. Le chef du gouvernement annonce qu'il poursuit la procédure de suspension d'autonomie de la Catalogne et convoque un conseil des ministres extraordinaire samedi prochain. Mariano Rajoy estime que le président séparatiste Carles Puigdemont n'a pas répondu aux exigences de retour à la légalité. Une décision dans la logique du discours de fermeté tenu depuis plusieurs mois à Madrid, Diane Cambon.
Depuis le début de la crise catalane, lorsque le gouvernement régional a approuvé en septembre la loi permettant de célébrer une consultation populaire sur l'indépendance, Madrid n'a pas modifié d'un iota sa position. Aucun dialogue n'est possible tant que l'exécutif catalan enfreint les lois nationales. La fermeté du président espagnol Mariano Rajoy, qui avait été accusé d'immobilisme face à la montée de l'indépendantisme catalan au cours des 6 dernières années, est aujourd'hui soutenue par une ample partie de la population espagnole. Au Parlement national, c'est quasiment la majorité des partis politiques, excepté les radicaux de Podemos, qui approuvent l'application de l'article 155 de la Constitution, permettant de prendre le contrôle de la région catalane. Une mesure extrême qui va être prise après deux ultimatums lancés par le pouvoir central au gouvernement catalan. Celui-ci reste sourd aux appels de Madrid d'abandonner le projet indépendantiste. Pour le président catalan, le gouvernement conservateur mène une politique de répression en Catalogne. Carles Puigdemont accuse notamment le gouvernement espagnol d'utiliser la justice pour, je cite, attaquer le peuple catalan.
Le peuple catalan qui sera de nouveau dans la rue samedi prochain pour une grande manifestation à Barcelone. Bien sûr, les pays européens observent de très près et avec une certaine inquiétude ce qui se passe en Espagne, craignant pour certains un phénomène de contagion. Écoutez à ce propos la réaction d'Enrico Letta, ancien président du Conseil européen et actuel dirigeant de l'Institut Jacques Delors pour l'Europe. Il croit encore à une issue négociée de cette crise, comme il l'a expliqué à Catherine Roland.
On n'est pas dans le dialogue, mais il faut que le dialogue retourne. S'il n'y a pas de dialogue, je pense que c'est une question sur laquelle il ne va pas y avoir de solution. Et donc l'appel au dialogue vaut pour tous. Et c'est la seule possibilité de faire en sorte qu'ils puissent trouver des solutions à l'intérieur de leur État sans intervention extérieure. Et je pense que ce serait un très mauvais précédent s'il n'y avait pas de dialogue.
Ce serait un risque pour l'Europe.
Oui, et pour tous les pays aussi, parce que chaque pays a sa Catalogne. Et chaque pays a besoin de gérer tout ça dans une situation dans laquelle l'autonomie, la subsidiarité, la solidarité puissent marcher.
Enrico Letta, au micro de Catherine Roland.
Bla bla bla, bla 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 bla.
Vous me rozumite? Ya ni slovo.
Certains le comparent à Donald Trump pour sa fortune et son populisme. D'autres le voient plus dans la lignée de Berlusconi pour son emprise sur les médias. En République tchèque, le milliardaire Andrej Babiš devrait sans surprise remporter les législatives du week-end prochain. Ses détracteurs évoquent des menaces réelles sur l'État et la démocratie dans le pays s'il est élu. C'est un dossier signé Alexis Rosenzweig.
Dans ce clip de campagne, Andrej Babiš retrousse les manches de sa chemise de manière virile et affirme ne jamais vouloir cesser de combattre pour la sécurité de son pays. À ses côtés, c'est un smiley, oui, un smiley, mais habillé en treillis et armé d'une kalachnikov dont on entend les rangers marteler le sol pour se mettre au garde à vous. Le décor est planté, Andrej Babiš et son mouvement des citoyens mécontents Anno ne font pas dans la nuance, l'artillerie lourde est de mise pour se démarquer de la coalition sortante dont il a pourtant fait partie pendant 4 ans. La sécurité est un point essentiel de son programme électoral et un thème lié sans relâche à la crise migratoire malgré l'absence de migrants en République tchèque. Lui ne veut pas construire de murs, mais il a quand même été comparé à Donald Trump, tandis que d'autres le voient prendre le même chemin que les dirigeants polonais ou hongrois. Gérer l'État comme une entreprise, c'est le credo d'Andrej Babiš qui se pose depuis le départ comme un candidat contre un establishment corrompu et se targue à chaque meeting d'être le seul à pouvoir négocier efficacement avec les partenaires européens. Il était ce dimanche sur la place centrale de la petite ville de Pardubice.
Oni mají problém, Macron a Merklova.
Merkel et Macron ont un problème. Elle a 3,5 millions de Turcs. Lui a des Maghrébins de troisième génération et ils doivent composer avec ça dans la gestion de la crise migratoire. Mais nous, les Tchèques, on a aussi le droit à la parole. Contrairement à d'autres, je parle 4 langues et peux communiquer avec mes homologues. Je ne suis pas eurosceptique, mais je suis contre davantage d'intégration. Et je ne veux pas adopter la monnaie unique. En tout cas, pas avant qu'ils ne mettent de l'ordre dans la zone euro.
Il n'y a pas une stratégie arrêtée de Andrzej Babiš sur l'Europe.
Martin Michelot est le directeur adjoint d'Europeum, un institut d'études des questions européennes basé à Prague.
L'ennemi européen, c'est une création complètement artificielle en République tchèque. Andrzej Babiš, c'est quelqu'un qui a profondément ses intérêts personnels en tête et qui sait pertinemment bien que l'Union européenne, pour lui, est un objet nécessaire, est un objet crucial de la prospérité de ses entreprises et aussi de la prospérité du pays.
Vu l'état des forces en présence, l'effondrement des partis traditionnels qui ont gouverné depuis la chute du communisme à Prague et le relatif manque de charisme et de moyens de ses rivaux, Andrzej Babiš fait cavalier seul en tête de la course au pouvoir cette année. En fait, il est lui-même son principal adversaire, avec d'abord son passé trouble. Il est toujours soupçonné d'avoir été un agent de la police communiste et l'origine de sa fortune pendant le passage à l'économie de marché n'est pas très claire non plus. Et puis aussi, avec des conflits d'intérêts flagrants, il a été ministre des Finances tout en restant le dirigeant de fait de son empire industriel agrochimique, dont fait partie aussi un grand groupe de presse. Ses démêlés avec la justice font la une des journaux, en tout cas la une de ceux qu'il ne possède pas. L'affaire qui a animé la campagne électorale concerne des fonds européens indûment perçus pour un complexe touristique qu'Andrzej Babiš a ouvert pas loin de Prague. Mis en examen la semaine dernière, il parle d'une machination orchestrée par les autres partis et les journalistes corrompus. Michel Perotino est professeur de sciences politiques à l'Université Charles de Prague.
Le problème, c'est qu'on a accepté, il y a maintenant 3 ans et demi, on a accepté que Andrzej Babiš fasse partie du jeu. Tant qu'Andrzej Babiš n'est pas condamné, il reste tout autant légitime. À terme, cela pourrait poser problème effectivement pour la démocratie. Avant d'en arriver là, il faut déjà par exemple qu'il obtienne une majorité.
Si malgré le soutien de l'actuel chef de l'État, Andrzej Babiš n'obtient pas assez de voix pour prendre la tête du prochain gouvernement, il a déjà annoncé qu'il retournerait à ses affaires. D'ailleurs, il doit bientôt ouvrir un nouvel hôtel-restaurant dans sa banlieue chic de Prague, une succursale de son établissement français étoilé au Michelin, situé pas loin de Cannes, en Provence.
Toutes ces femmes dans la rue, toutes ces femmes...
Hier, avec Eve Minot, nous évoquions l'onde de choc de l'affaire Weinstein sur les réseaux sociaux européens. Après les révélations sur les multiples agressions sexuelles perpétrées par le producteur de cinéma américain, les dénonciations de viols, tentatives de viols ou de harcèlement sexuel se sont multipliées sur le continent. En Europe, où le phénomène existe partout mais est mesuré et perçu différemment selon les pays, c'est l'objet de la chronique My Europe de Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Est-ce qu'on a d'abord une idée de l'ampleur des violences sexiste en France?
L'enquête de l'INED de 2016 sur la violence et les rapports de genre évalue à 65 000 le nombre de viols et tentatives de viols qui se sont produits en France dans les 12 mois précédant l'enquête. Des chiffres qui n'ont rien à voir avec les quelques 12 000 viols seulement déclarés à la police. Quant aux autres agressions sexuelles, elles concernent 630 000 Français, soit 1,3% de la population de plus de 20 ans. Mais attention, ces chiffres ne prennent pas en compte le harcèlement sexuel qui est d'une toute autre ampleur. Rappelons que selon la loi, ce harcèlement consiste à imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante. Si l'on se réfère à l'enquête 2014 de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, 30% des femmes françaises déclarent avoir subi un harcèlement sexuel dans les 12 derniers mois et 75%, les trois quarts, l'ont subi au cours de leur vie.
Un fléau qui n'est pas spécifiquement français, Daniel.
Bien sûr que non, mais en matière de harcèlement, la France est malheureusement dans le haut du tableau européen à la 3e place pour ce qui est du harcèlement subi à partir de l'âge de 15 ans. Seuls la Suède et le Danemark font pire, avec 80% de femmes déclarant avoir été sexuellement harcelées. L'Allemagne et la Belgique sont à 60%, l'Italie ou l'Espagne autour de 50%, et le Portugal ou les pays de l'Est européen encore beaucoup moins.
Alors Daniel, comment expliquer cette tendance en Scandinavie dont vous parliez un instant ?
Elle reflète un double phénomène. D'une part, les sociétés du Nord, de loin les plus avancées en matière d'égalité hommes-femmes, sont beaucoup moins tolérantes aux agressions à caractère sexuel. Ce qui est ressenti comme un harcèlement par une Suédoise ne le sera pas forcément par une Italienne. Mais d'autre part, les femmes scandinaves sont davantage intégrées dans la société au niveau des loisirs et surtout du travail. Puisque, selon l'Organisation internationale du travail, elles sont actives à 61% en Suède et seulement à 39% en Italie. Elles sont donc plus exposées que les femmes méditerranéennes.
Alors en France, la secrétaire d'État chargée de l'égalité hommes-femmes, Marlène Schiappa, annonce pour 2018 une loi sur les violences sexistes destinée à renforcer la prévention et à aggraver les sanctions. Est-ce que cette nouvelle loi est une initiative isolée en Europe ?
Au niveau des annonces, oui, mais plusieurs pays ont récemment renforcé leur législation sur les atteintes à caractère sexuel, notamment l'Allemagne, la Belgique, le Portugal et le Royaume-Uni. À certains égards, la France paraît en retard.
Sur quel point en particulier ?
Jusqu'à cette année, elle l'était en matière de prescription du délit de harcèlement sexuel, puisque l'on ne pouvait porter plainte que dans un délai de 3 ans après les faits. Or, en Allemagne, Belgique, Italie ou Espagne, ce délai est de 5 ans, et s'il est de 3 ans en Angleterre, le juge peut décider d'allonger la durée de prescription. Depuis une loi de février 2017, la prescription de la plainte pour harcèlement en France a été portée à 6 ans.
Et qu'en est-il alors du harcèlement de rue, Daniel ?
Aujourd'hui difficilement identifié, ce type de harcèlement pourrait effectivement faire l'objet d'une procédure de verbalisation. Mais l'on se heurte à deux types de difficultés à cet égard. D'abord, la notion de répétition de l'acte n'est pas évidente sur la voie publique où, par exemple, les réflexions déplacées sont la plupart du temps énoncées une seule fois. Mais surtout, il y a la question de la preuve à fournir au fonctionnaire de police qui n'a pu constater un flagrant délit. En 2014, la Belgique a adopté une loi prévoyant de réprimer le harcèlement de rue, manifestement sans succès, puisque seulement 3 plaintes ont été enregistrées à ce titre en 2015.
Merci Daniel Vigneron. Toutes ces informations à retrouver sur le site myeurope.info. À la semaine prochaine.
À bientôt Laurent.
C'est l'une des plus belles destinations touristiques d'Italie et les touristes s'y pressent encore nombreux en ce mois d'octobre, les îles Éoliennes en Sicile. Pourtant, derrière la carte postale se dissimule un pan entier de l'histoire italienne tombé dans l'oubli, Lipari, la plus grande de ces îles, qui a été pendant près de 150 ans un bagne à ciel ouvert. Reportage de Cécile Debarge.
Questa.
Entre les doigts de Mattia Paino glissent des centaines et des centaines de fiches signalétiques classées par zone géographique. Toutes les provinces italiennes sont représentées. Sur chaque fiche, nom, prénom, date et lieu de naissance et une mention un peu étonnante.
Violence et dommages causés aux fascistes. Propagande communiste. Violence et dommages causés aux fascistes encore. Diffusion de brochures subversives. Propagande socialiste et antifasciste.
Depuis des années, le Centre des études sociales et historiques des îles Éoliennes tente de faire revivre une mémoire oubliée, celle des milliers d'hommes de toute l'Italie envoyés à Lipari sous le fascisme en raison de leurs convictions politiques.
On les envoyait ici pour les faire taire, pour effacer définitivement leur mémoire.
Dès les années 30, la petite île sicilienne est renommée la Sibérie de Mussolini, une île coupée du monde où les antifascistes sont envoyés au banc pour une durée de quelques mois, jusqu'à 5 ans.
Les îles éoliennes, Lipari à l'époque, c'était comme Alcatraz, une prison en mer, parce qu'il n'y avait pas les moyens modernes pour se déplacer et évidemment vivre une vie complètement isolée du continent, en proie aux conditions météo-marines, c'est bien plus dur que n'importe où ailleurs.
À la fin de la guerre, rares sont ceux à s'intéresser à cette histoire et nombreuses sont les familles des antifascistes à ne pas savoir ce qu'il est advenu de leurs proches. Régulièrement, des demandes d'informations parviennent au petit centre des études sociales et historiques des îles éoliennes.
La dernière demande de recherche qu'on a eue, c'était pas plus tard que la semaine dernière. Une dame, sarde, qui par pur hasard, et comme c'est souvent le cas d'ailleurs, se trouvait en vacances à Lipari, et elle m'a dit qu'elle était allée voir la mairie pour avoir des informations, mais qu'il n'avait pas su l'aider. Son oncle était ici à l'époque. Avec telle et telle personne, elle m'a demandé si j'en savais plus.
Après quelques recherches, Mattia Paino retrouve le prisonnier en question qui fut l'un des fondateurs du Parti Socialiste de Sardaigne. Tout comme Mattia Paino, passionné par cette histoire, nombreux sont les habitants de l'île à garder un souvenir ému des antifascistes.
Ma maison avait une façade derrière qui donnait exactement sur le château où ils étaient enfermés. Et alors je me mettais à ma fenêtre et il me disait « Fillette, fillette, vas-y, chante !» Et il me jetait des bonbons.
Cette habitante a aujourd'hui plus de 80 ans. Si elle considère les antifascistes comme des prisonniers de choix, souvent intellectuels, artistes ou hommes politiques, c'est parce qu'elle sait que l'île de Lipari a accueilli des invités bien moins recommandables, les détenus de droit commun envoyés depuis la fin du XVIIIe siècle sur cette île transformée en prison à ciel ouvert.
J'ai encore dans la tête le bruit que faisait leur chaîne parce qu'ils n'étaient pas menottés mais enchaînés aux pieds. Pour éviter qu'ils s'échappent.
Véritable bagnard, nombre de ces détenus étaient envoyés sur l'île voisine de Vulcano pour en exploiter le soufre. En réalité, trois types de détenus ont été envoyés sur l'île de Lipari de 1780 jusqu'à l'après-guerre, explique l'historien Michele Giacomo Antonio.
C'est là qu'ensuite on a envoyé les apatrides, après-guerre. Tous ceux qui venaient des armées défaites, de l'armée allemande, des armées de l'Est, qui soit ont perdu leur nationalité, soit n'en ont plus, qui ne voulaient pas rentrer chez eux parce qu'ils avaient peur d'être jugés pour s'être battus contre leur camp, ceux qui ont arraché leurs papiers d'identité, ceux qui faisaient semblant de ne plus se souvenir de leur nom, c'est là qu'ils les ont envoyés.
Pour se défaire de cette image d'île du diable qui lui collait à la peau, Lipari a dû attendre les années 70, car à l'époque, les îles éoliennes tentent de sortir de siècles de misère noire en développant le tourisme incompatible avec la réputation de prison à ciel ouvert de l'île.
La mairie a envoyé une lettre qui demandait au gouvernement de fermer le bagne, mais le gouvernement n'a même pas répondu. Alors le maire a proposé trois solutions. De fermer le bagne, de ne plus y envoyer personne, ou d'enfermer tous les détenus dans le château et éviter qu'ils en sortent.
C'est finalement la première solution qui a été choisie. Aujourd'hui, le château de Lipari se visite pour son musée archéologique et plus personne ne se souvient qu'à côté de la billetterie, jusqu'à 1500 bagnards s'entassaient sur des lits de paille dans des conditions moyenâgeuses.
C'est une île au passé moins trouble que redécouvrent les habitants de Saint-Pétersbourg en Russie, l'île de Nouvelle-Hollande, bordée par les célèbres canaux de l'ancienne capitale impériale, longtemps restée à l'abandon. Désormais, c'est un lieu de sortie très apprécié, Étienne Bouche.
Les friches ont disparu, mais la promenade le long du canal de la Moïka a gardé un parfum de romantisme. Sous une lumière d'automne, l'arche de la Nouvelle-Hollande évoque un monde disparu. L'édifice date du XVIIIe siècle. Il a été dessiné par l'architecte français Valin de Lamotte. L'Empire russe bâtissait alors sa capitale, une ville surgissant de nulle part, pensée comme une fenêtre sur l'Europe. À cette époque, cette île triangulaire abritait des entrepôts navals. C'était un point stratégique et son accès était réservé à la marine. Pour les ingénieurs étrangers qui y travaillent, l'atmosphère rappelle Amsterdam, d'où le surnom de Nouvelle-Hollande. Quelques décennies plus tard, on y a construit une prison et un bassin d'essai pour les architectes navals. En 2011, un cabinet d'architectes a été chargé de réaménager la Nouvelle-Hollande. Après 3 ans de travaux, elle a été inaugurée l'été 2016. L'île est aujourd'hui un parc. Elle attire aussi bien la jeunesse branchée que les familles. Sa conception évoque celle du parc Gorki de Moscou, car il s'agit aussi d'un espace culturel. On y organise des conférences, des ateliers et des projections. Pour l'heure, seule la première étape de restauration a été achevée. Les autres bâtiments historiques sont en travaux, ils ont vocation à devenir des bureaux. Fin des travaux prévus pour 2025.
Françoise Grelot a réalisé mise en onde cette édition Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page Émissions.